Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons l'auteur du livre événement de cette rentrée dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Eva Ducrot, Benaouda Abdelhaim pour voyager dans le temps et dans l'espace. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, et tout de suite on accueille notre invité. En 2012, il publiait Homo Economicus, prophète, entre parenthèses, égaré des temps nouveaux. 10 ans plus tard, il publie Homo Numericus, la civilisation qui vient, civilisation entre guillemets. Mais que s'est-il donc passé en 10 ans? Peut-être la plus grande révolution anthropologique depuis que l'homme s'est sédentarisé il y a à peu près 8000 ans. Alors avec quelles conséquences? Comment cette numérisation bouleverse nos vies? Comment allons-nous vivre dans un monde qui nous assassine d'injonctions contradictoires? Est-ce que ce sera l'enfer? Est-ce que ce sera le paradis? Réponse avec vous, Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Daniel, vous êtes président de l'école d'économie de Paris et vous publiez donc Homo Numericus, la civilisation qui vient. Là aussi, c'est chez Albin Michel. Vous êtes fidèle aussi à votre maison d'édition. Daniel Cohen, il y a 10 ans, vous faisiez le portrait d'un Homo Economicus fatigué de lutter dans un monde de compétition plutôt que de coopération, un monde d'argent plutôt que de valeur. Pas très heureux, finalement, cet Homo Economicus. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans pour que les aspirations et les règles du jeu changent à ce point? Est-ce qu'on peut parler de rupture, liée notamment à la technologie, ou bien est-ce que finalement il y a une suite logique dans tout ça?
Je crois qu'il y a une suite logique. En effet, le portrait que je faisais de cet Homo Economicus était que il avait perdu les repères qui constituaient la société industrielle d'avant, celle qui vient à éclosion, notamment en France avec les Trente Glorieuses, dans lequel on avait des rapports sociaux conflictuels, durs, entre les syndicats, le patronat, etc. Mais la société était profondément inclusive. Il y a des ouvrages formidables qui ont été publiés par Jérôme Fourquet, notamment, dans lequel il montre ce qu'était l'identité ouvrière dans les années 50 et 60. Il y avait l'usine, il y avait la cité, il y avait le club de foot. Tout ça formait, au fond, un ensemble cohérent, inclusif, dans lequel on savait qui on était socialement. Et puis, le grand processus qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre, l'Homo Economicus, c'est que ce rapport à la société s'est progressivement effiloché. La grande maladie qui se découvre dans les années 80-90, c'est ce que Durkheim avait appelé l'anomie sociale, c'est-à-dire le sentiment de ne plus pouvoir faire société, de ne plus en comprendre les règles. Et l'économie qui s'est substituée en un certain sens à la société, au sens où voilà, on est dans un monde de plus en plus compétitif, produit de l'anomie sociale. C'était un peu le diagnostic des mots economicus. Et au fond, la promesse de l'homo numericus, la promesse de la société numérique, c'était de remédier à ce mal. C'est-à-dire de donner les moyens de faire société autrement, mais de réinstituer la société. Et ce livre, de ce point de vue-là, est très pessimiste, puisque alors, j'explique pourquoi ça ne s'est pas passé comme attendu il y a encore 10 ans.
Alors, petite curiosité, le sous-titre, c'est « La civilisation qui vient ». Et vous mettez « civilisation » entre guillemets. Pourquoi?
Alors, « civilisation », le mot est évidemment très fort. Mais je pense que nous sommes dans une rupture, vous disiez très bien, Emmanuel, anthropologique, civilisationnelle. Et j'ai un passage à la fin du livre, enfin plus qu'un passage, une partie où j'essaye de montrer dans quel fil la société numérique qui s'installe est en effet une civilisation. Et je remonte aux chasseurs-cueilleurs, je montre que, pour le dire très brièvement, les civilisations peuvent se caractériser à deux niveaux. D'une part, au niveau des relations sociales, selon qu'elles sont verticales ou horizontales, est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on est légal, et puis ensuite selon qu'elles sont laïques ou religieuses.
Ouais, absolument.
Et donc la société industrielle qu'on a quittée, elle est à la fois verticale et laïque. Il y a des ingénieurs et pas des prêtres. La société agraire qui était avant, elle était déjà verticale, C'était le rapport d'autorité qui allait du roi aux paysans, mais elle était religieuse. Le roi était, au fond, loin du Seigneur. Et il faut remonter aux sociétés de chasseurs-cueilleurs pour avoir un modèle de société horizontale, avec peu d'hierarchie. Il y a des hiérarchies, bien sûr, dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais l'horizontalité en petits groupes est plutôt la règle. Mais elles restent, elles sont déjà religieuses, habitées par l'idée que des esprits font le lien entre la nature et l'homme. Et donc, il faut revenir à ça pour trouver un modèle qu'il faut laïciser pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Des sociétés qui se veulent...
Mais le modèle horizontal et laïque, est-ce qu'il a déjà existé ?
Non, c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. On a horizontal et religieux, on a vertical et laïque, on a vertical et religieux, mais la recherche d'une société où on est l'égal de l'autre, on se tutoie, on n'est pas à baisser les yeux devant son chef, même quand il y a un rapport d'autorité, évidemment, et laïque, c'est-à-dire sans avoir une autorité religieuse au-dessus et en surplomb, ou qui unifie les hommes, c'est nouveau. Donc il y a un projet civilisationnel. Pourquoi, entre guillemets ? Parce que pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, ça ne fait pas société. Donc, c'est une civilisation qui se recherche et qui échoue à constituer le ciment de la vie sociale.
Alors, une des raisons, c'est peut-être parce qu'on est obsédé par la technologie, en fait, et vous dites, attention, les limites de la digitalisation et de la numérisation, aujourd'hui, elles ne sont plus techniques, elles sont sociales et psychologiques.
Oui, parce que, disons, dans les révolutions industrielles antérieures, par exemple la première autour du charbon, la deuxième autour de l'électricité, au fond, ce que la technologie fait, c'est elle transforme le rapport de l'homme à la terre, à la matière, mais au fond, les effets sociaux sont indirects. Ils sont très puissants, évidemment, puisque on a connu un exode rural, parce que la vie urbaine n'est plus du tout la même avant et après l'électricité, mais c'est indirectement que les effets sociaux prennent leur marque. Avec la révolution numérique, c'est directement l'homme qui est travaillé par ces technologies. C'est sa manière de penser, c'est sa manière d'interagir. Donc on est en réalité tout de suite, dès le départ, dans une révolution non pas seulement sociale, l'est naturellement, mais anthropologique. C'est notre façon d'être, notre façon de penser, notre rapport à autrui qui est immédiatement travaillé, impacté par la révolution numérique.
Parce que vous dites, la révolution numérique, elle industrialise la société post-industrielle. C'est-à-dire, grosso modo, les algorithmes, ils jouent à l'échelle de la société, le rôle qu'ont joué hier les chaînes de montage dans l'organisation du travail.
Exactement. Les chaînes de montage ont permis à un ouvrier, sans avoir à se déplacer, d'être beaucoup plus productif, parce que toute l'ergonomie du système a permis qu'ils sortent de plus en plus d'objets par unité de temps. Ce qui est cherché dans la révolution numérique, je le disais dans mon précédent livre en conclusion, qui s'appelait « Il faut dire que les temps ont changé », en fait, c'est d'industrialiser, pour le dire simplement, la société de service. C'est-à-dire que la société de service est une société dans laquelle la définition d'un service, c'est lorsque le client et le prestataire doivent se rencontrer en face à face. Vous allez chez le coiffeur, exemple paradigmatique de Jean Fourastier, vous devez aller voir le coiffeur. Vous voulez vous faire soigner, il faut aller voir le médecin. Vous voulez prendre un cours, écoutez, il faut aller voir le prof. La société de service, c'est quand le rapport interpersonnel est au cœur de la transaction. Eh bien, ce que fait la société numérique, c'est d'industrialiser ça. On l'a vu très simplement avec le Covid, voilà. Zoom, les Teams, nous dispensent de nous rencontrer en face à face. On peut maintenant se faire télé-soigner. Il y a un nombre croissant de gens, ça marche pas mal, hein, si je comprends bien, où on n'a plus besoin d'aller voir le médecin, il vous voit en ligne, il fait votre diagnostic, vous lui envoyez des photos de votre radio si vous êtes foulé la cheville, et on fait des économies de temps, donc d'argent.
Non mais on fait des économies de temps, mais on fait aussi l'économie maximale de l'interaction physique avec les gens.
Et donc, derrière cette richesse nouvelle, il y a un appauvrissement en richesse, parce qu'il y a du gain de productivité, comme disent les économistes. On peut voir plus de champs en une minute qu'on ne pouvait le faire avant. Mais le ressort de cet enrichissement nominal, c'est un appauvrissement des relations interpersonnelles. C'est fait pour appauvrir les relations interpersonnelles. Parfois, c'est justifié, mais peut-être que si ça se généralise, ça devient une crise. On le voit aujourd'hui avec le télétravail. Le télétravail, c'est une nouvelle aspiration. Donc, c'est bien, au premier ordre d'approximation, de ne pas être obligé, tous les matins, de prendre un transport en commun pour aller au travail et rester ses choix. Mais tout le monde voit le risque, c'est que si on va trop loin, alors l'anomie sociale dont je parlais pour caractériser le mot economicus redeviendra la règle ici. C'est-à-dire qu'on va perdre le contact à la société au moment où il est déjà lui-même très fragile.
Mais là, mais il y a quelque chose de paradoxal, en fait. Alors, il y a un aspect positif et un aspect, effectivement, inquiétant, puisque vous dites, il ne s'est pas produit tout ce qu'on espérait qu'il se produirait. En même temps, cette société numérique, elle répond finalement à la limite de Jean Fourastier, que vous décrivez très bien, qui disait, en gros, bah, quand on va arriver à la société de service, c'est pas une société dans laquelle on fait des gains de productivité importants. Voilà. Vous citez l'exemple de la culture. La culture, monter une pièce de théâtre, ça coûte la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et là, on a l'impression que le numérique, ça répond finalement à cette solution des gains de productivité, mais qu'en même temps, paradoxalement, effectivement, on va vers une technologie qui n'est pas une technologie enrichissante pour la société, mais une technologie appauvrissante.
Appauvrissante, exactement. Donc, pour prendre un exemple d'ailleurs que je donne et que je tire d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, on a eu, il y a une dizaine d'années, y compris d'ailleurs dans mes établissements universitaires à moi, cette idée que les MOOCs, hein, les cours en ligne, allaient apporter des solutions universelles, exactement, que on pourrait atteindre des publics à distance de l'université, ouais, qu'on allait pouvoir enseigner à l'Afrique X et X manières de monter en gamme en intelligence. C'est un échec total. C'est un échec total. Plus personne n'en parle vraiment. En fait, on s'est rendu compte que s'inscrire à un MOOC, ça n'apprend rien. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas soutenir seule l'expérience du savoir. Il faut un prof qui vous regarde, même quand c'est dans un amphi. Il faut qu'il y ait des élèves avec qui vous soyez en interaction pour dire « j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit » et donc du coup de réagir en groupe. L'idée que seul devant un écran, vous allez pouvoir suivre un cours de mécanique quantique et devenir d'une certaine manière comme ça du jour au lendemain un savant est faux. Et il y a une expérience que cite Michel Desmurger que je trouve extraordinaire, c'est celle d'un enseignant qui enseignait le chinois à des enfants. Et à un moment donné, pour faire des économies de temps, il s'est enregistré lui-même. Et il a montré à un enfant la vidéo du cours qu'il faisait à un autre bébé, qui avait un an, pour pouvoir en faire encore un autre pendant ce temps-là. Et le bébé qui a été exposé à la vidéo n'a rien appris. C'était comme si on lui avait montré une image. Pourquoi ? Parce que enseigner surtout à un enfant, c'est suivre son regard. Même s'il ne comprend pas, en un certain sens, ce que vous dites. Mais on voit quand son attention se dissipe, on ralentit, on hausse le ton. Ce qu'on est en train de faire tous les deux. C'est très important, cette relation dans les yeux interpersonnels. Donc l'idée qu'on peut numériser ces interactions, c'est une illusion. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver le bon curseur. Je ne suis pas en train de tout jeter par la fenêtre, mais je dis soyons très attentifs à ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas gagner de la productivité comme ça quand on s'occupe des personnes. Je pense au scandale d'Orpea. Ouais. Voilà. On a voulu économiser sur le soin qu'on apporte aux gens. Mais c'est un désastre. S'occuper d'une personne, c'est coûteux en temps, c'est coûteux en effort et en attention. L'idée qu'on va pouvoir accélérer tout ça, je pense, est une erreur
avec
grave.
Le prétexte, justement, que la technologie va permettre...
Que la technologie va permettre de surveiller, exactement, par exemple, les vieux à distance. Ouais. On va mettre des écrans dans les appartements de tous les vieux, ouais, et ce sera réglé. Vous vous rendez compte, l'idée que ça pourrait produire ?
Pour essayer quand même de voir si, finalement, le monde qui nous attend sera plutôt sympathique ou plutôt désagréable, il y a quand même à éclaircir cette relation de l'homme avec l'intelligence artificielle, avec la machine, quoi. Et là, effectivement, c'est un terrain inconnu, puisque vous dites, avec le travail à la chaîne, finalement, c'était l'homme qui devenait une machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est la machine, ouais, qui devient humaine. Donc, comment on va se répartir les rôles ?
Voilà, exactement. Donc, il faut comprendre ce qu'il reste d'humain dans cette rivalité nouvelle entre l'homme et l'intelligence artificielle. Je pense, le grand risque, d'abord, l'intelligence artificielle, ça commence tout juste en, ouais, réalité. C'est-à-dire, je pense qu'on est véritablement là au début d'une histoire qui va transformer le monde. Donc si on ferme les yeux et on se dit à horizon de 10 ou 15 ans, qu'est-ce que ça va permettre l'intelligence artificielle ? Bah, ça va permettre, c'est déjà le cas d'ailleurs en réalité, d'aller dans un magasin, de prendre ce que vous voulez, vous sortez, votre carte est immédiatement débitée, vous n'avez besoin de rendre de compte à personne. C'est déjà le cas dans certaines boutiques en France le dimanche, où ma fille vit à Londres, en Angleterre, c'est déjà le cas. Vous allez dans des aéroports, la reconnaissance faciale fait qu'il n'y a plus de queue. Donc on est dans une fluidité totale. Ça veut dire que, même si aujourd'hui ça a du mal à débuter, les voitures autonomes vont monter en puissance, c'est les humains qui vont être chassés. La menace, ce qui empêche, qui bride le développement de la voiture autonome, c'est le fait que les humains s'obstinent à vouloir conduire leur propre voiture. Mais lorsque les voitures seront interdites en ville, les voitures autonomes n'ont aucun problème à communiquer entre elles et à éviter tout accident. Donc, on voit bien que C'est quelque chose qui est en train de se profiler. Donc on sera dans un monde, d'autres exemples que je donne dans le livre, les recrutements. Grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle déjà, vous avez un poste qui est ouvert, ou des recrutements pour une université, il n'y a pas de limite au nombre de candidats possibles. Vous pouvez avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Vous avez un poste à l'université de Chicago, fond, qui est 10 millions de candidats du monde entier qui se présentent. L'algorithme va les sélectionner et on ne gardera à rencontrer des humains que les dix meilleurs. Et là, oui, il y aura un processus de filtre. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train de nous préparer une gestion algorithmique du monde dont on n'a pas l'idée aujourd'hui de ce qu'elle peut produire. Donc, le risque, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux nous crétinisent d'un côté et que l'intelligence soit du côté de la machine. On voit bien les rapports addictifs qu'on a à nos portables. On est là, comme ça, toujours à scroller. Donc, la menace qui pèse sur nous, c'est une espèce de dichotomie.
La menace, c'est que la machine nous incite à la paresse.
Elle nous incite à la paresse.
À la paresse physique, intellectuelle.
De réfléchir.
À la paresse globale. Parce que vous n'êtes pas tendre avec votre homo numericus. Vous dites, finalement, c'est un individu crédule, qui n'a pas d'esprit critique et par rapport à l'idée qu'on avait finalement une connaissance qui allait se diffuser dans le monde entier, bah non, on s'aperçoit que
c'est pas du tout. Exactement. C'est en fait le vrai point de départ pour moi du livre, c'est que on attendait, moi d'ailleurs le premier, il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, on pensait que Internet allait produire une intelligence collective nouvelle, un peu sur le modèle de Wikipédia. Que, ouais. Voilà, ça serait bourré de wikipédistes et que on était à la veille d'une révolution d'une importance civilisationnelle comparable à celle de l'imprimerie, à l'invention de l'imprimerie qui tout d'un coup a changé le rapport des humains au savoir, a permis d'individualiser les connaissances et a transformé littéralement l'humanisme occidental vient en partie, se nourrit de cette révolution Gutenberg. Et au lieu de ça, il y a quelque chose de parfaitement décevant qui s'est produit, même affligeant, qui est le monde des fake news, de la post-vérité dont Donald Trump...
Les réseaux sociaux, voilà, l'expression que vous employez c'est « on espérait une nouvelle agora ». On a un débat hystérisé, radicalisé, voilà. Et finalement, au lieu d'entretenir le vivre ensemble, on alimente au contraire les clivages.
La haine et les clivages. Donc j'essaye de revenir sur pourquoi, enfin je pense que c'est bien compris en réalité, mais j'essaye de traduire tout ça dans un langage simple, que je puisse comprendre d'ailleurs moi-même aussi. Je pense qu'il y a deux mamelles aux causes de l'abêtissement qui se produit sur les réseaux sociaux. La première, c'est que les réseaux sociaux, en réalité, nourrissent ce que les économistes et les psychologues appellent le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand vous allez en ligne chercher des informations, vous ne cherchez pas à découvrir la vérité. Vous cherchez inconsciemment ou consciemment à conforter vos a priori, vos préjugés. Et ça, c'est un biais humain. Daniel Kahneman, le grand psychologue, ouais, l'a très bien expliqué, mais que tout le monde a, même les plus grands savants, ne croyez pas qu'ils regardent la nature et disent tiens, c'est drôle ce papillon qui. C'est pas comme ça que ça marche. Les plus grands savants, ils ont des a priori et ils cherchent à les vérifier. Alors, ils y arrivent. Ils ont le prix Nobel, ils échouent, c'est pas comme ça que ça se passe, ils passent à autre chose. Mais c'est comme ça que nous procédons. Nous avons des idées a priori et nous les trouvons. Si vous pensez, par exemple, que la guerre en Ukraine, elle est le résultat des géants pétroliers qui ont voulu, ou gaziers, qui ont voulu s'enrichir et que c'est eux qui sont à l'origine de cette guerre, vous pianotez ça et vous allez trouver des millions de personnes qui pensent comme vous. Donc la première mamelle de l'abêtissement, c'est celle qui vient du fait que quand vous entrez sur les réseaux sociaux, vous enfermez en réalité dans un ghetto numérique. Et puis la deuxième mamelle, c'est le fait que sur les réseaux sociaux se joue ce que les économistes appellent l'économie de l'attention. C'est-à-dire, il faut vous faire entendre. Vous n'allez pas sur le net dire « Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai des idées à vous proposer ». Il faut parler plus haut que les autres pour se faire entendre. Il faut aller jusqu'à l'innommable pour pouvoir précisément attirer l'attention. Si vous mettez les deux, la ghettoisation de la pensée, la montée aux extrêmes pour se faire remarquer. Je crois que vous comprenez tous les ingrédients.
Mais est-ce que c'est ça qui explique
de ce monde des réseaux sociaux?
Est-ce que c'est ça qui explique la désintégration des institutions finalement qui structuraient nos sociétés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats, les partis politiques, les médias, tout est en train finalement d'être contourné, voilà, aujourd'hui.
Exactement. Je pense que si on essaie de remonter à ça, on voit que donc il y a des pathologies considérables qui sont en train de se de montée qui font que, voilà, on comprend, cette agora attendue, elle ne se réalise pas parce que sur les réseaux sociaux, au fond, on attise la haine et le spectaculaire, et on peut pas avoir une conversation philosophique, on peut pas avoir même un débat politique sur les réseaux sociaux en réalité. Mais qu'est-ce qui, en réalité, au cœur de ça, est en jeu? Ce que vous disiez à l'instant, je pense que ce qu'a fait la révolution numérique, pas simplement celle des réseaux sociaux, mais dès les années 80, ce qu'a fait la révolution numérique, c'est de désinstitutionnaliser le monde. Vous parliez des entreprises. Les entreprises, à partir des années 80, ça commence avec le fax, ça se développe avec Internet. En fait, commence à produire hors les murs. C'est la mode, en quelque sorte, de la sous-traitance qui éclate à partir de ce moment-là. Parce qu'en effet, grâce aux nouvelles technologies, on peut s'approvisionner un peu partout. On peut avoir des sous-traitants qui accomplissent parfaitement ce dont vous avez besoin. Et donc, on commence à avoir un monde, souvenez-vous, la formule d'un monde sans entreprise, et des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs. Ça commence dès les années 80 avec cette idée qu'on...
Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la façon de contourner tous les intermédiaires, voilà, avec la blockchain et les crypto-monnaies, on va contourner les banques, etc.
Exactement. Donc ça désinstitutionnalise le monde, ça désinstitutionnalise le monde des entreprises, ça désyndicalise, et les partis politiques sont les premiers à être victimes de ça. C'est-à-dire, pourquoi faire un parti politique, pourquoi militer dans un parti politique quand ça se joue sur les réseaux sociaux? Et donc ce monde sans institutions, les institutions, ça sert à quoi? Ça sert à donner la parole à tour de rôle, ça sert à créer de la mixité. Dans une institution, que ce soit un parti politique ou un syndicat, il y a des lignes qui peuvent s'opposer. Sur les réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes pas content avec la manière dont ça se passe, vous allez à côté, vous allez dans une autre bulle, et donc la conversation n'est plus possible.
Vous avez une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le livre, vous dites finalement, sur tous les sujets, l'homme vit au-dessus de ses moyens.
Oui.
Sur le plan psychique, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Par rapport à la contrainte écologique et à l'exploitation de la planète, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Est-ce que c'est dans notre nature, finalement, de vivre au-dessus de ses moyens?
C'est dans la nature, non pas humaine, je crois, à proprement parler, mais c'est dans la nature des civilisations d'aller toujours à leurs limites. Il y avait un livre qui, dans les années 80, qui s'appelait « La montée et le déclin des grandes puissances ». Et il avait montré, l'auteur s'appelle Paul Kennedy, il avait montré que tous les empires étaient victimes de ce qu'il avait appelé, si vous vous souvenez, l'imperial overstretch. C'est-à-dire, on va toujours au bout, tous les empires vont au maximum de leurs limites et aucun ne sait s'arrêter juste avant. Et les civilisations ont ce trait de ne pas savoir s'arrêter à mi-parcours. Tous les exemples de Jared Diamond sur les effondrements écologiques des civilisations le montrent. Donc oui, une civilisation... Il y a beaucoup de mal à avoir une distance critique par rapport à elle-même. Les réseaux, la révolution numérique, en fait, joue ce rôle, mais à l'extrême. C'est-à-dire que le monde qu'elle promet, c'est un monde sans contrainte, c'est un monde sans friction. Sur Internet, on vous promet l'abondance totale. Vous pourrez écouter autant de chansons que vous voudrez. Vous pourrez, grâce à Tinder, rencontrer autant de personnes que vous voudrez. Donc, il n'y a plus de limites. Or, les limites, elles existent. C'est les capacités humaines à interagir ou même à penser.
Bon, comment tout ça se termine, Daniel Cohen?
Alors, j'espère que les institutions dont on parle...
Que ce monde, il sait ce qu'on en fera aussi.
Voilà, il sait ce qu'on
en fera. Il n'y a pas de fatalité.
Voilà, mais ce n'est pas individuellement qu'on y arrivera. Parce que la révolution numérique, elle est faite pour s'adresser à nous comme individus et nous donner l'illusion qu'on va faire société sur le net. Non, moi je pense que la contre-révolution, en tout cas le contre-pouvoir, devra venir de ces institutions que Internet ou la révolution numérique veut liquider. Par exemple, dans le domaine de la médecine, moi ça me gêne pas qu'on fasse de la télétravail si c'est utile. Mais je veux être sûr que ce soit les médecins qui en décident. Donc je veux que les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques prennent possession de cet instrument pour faire un parcours suivi qui permettent de faire ceci ou cela. Je veux que les enseignants, dont je suis, aient recours à l'usage numérique, mais pas pour faire des trucs en ligne, parce qu'il y a un gadget qui va proposer des produits qui se substitueraient à mes cours.
Le valet doit rester le valet.
Voilà, je veux que les partis politiques comprennent qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir au sens où ils le souhaitent, en agrégeant des idées contraires, simplement en ayant, c'est une formule de mon ami Michel Auferlet, un chef et Internet. C'est ça l'idée qu'on a de la vie politique aujourd'hui. Si vous regardez la dernière élection présidentielle, les quatre candidats arrivés en tête sont les candidats de partis qu'ils ont créés eux-mêmes, à part Marine Le Pen qui a hérité du parti de son père. Donc ça veut dire qu'on est dans une désinstitutionnalisation de la vie politique qui ne peut pas continuer. Donc c'est pas seul malheureusement qu'on peut agir, c'est en retrouvant le sens de ces communautés, des communautés de savants, des communautés d'intérêt. Il faut que les entreprises réépaississent leurs traits, se soucient de leurs sous-traitants pour retrouver précisément ce que la révolution numérique est en train de détruire, notre capacité à faire société.
Merci beaucoup, Daniel Cohen, d'être venu dans la librairie de l'Écho pour présenter ce livre, qui est un des grands livres événements de cette rentrée. Donc, Homo Numericus, la civilisation qui vient, c'est publié chez Albin Michel. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'Écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'Écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Eva Ducrot pour nous faire voyager dans le temps. Et puis Benaouda Abdedaïm, bien sûr, pour sa sélection d'études à travers le monde. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. Et à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESC. Business School et aussi le critique attitré de la Société d'économie politique. Messieurs, on commence avec, allez tiens, le choix de Christian, le livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez, Redonner du sens au travail, c'est aux éditions du Seuil.
Ouais, on parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, des difficultés de recrutement des entreprises. Absolument. Et les deux auteurs nous disent l'une des raisons des difficultés de recrutement pour certaines entreprises, c'est que les conditions de travail sont pas idéales, et notamment un travail qui peut manquer de sens. Alors, un travail qui manque de sens, c'est une formule générale, et je trouve que le premier intérêt du livre, c'est de dire mais qu'est-ce que ça veut dire un travail, donner du sens au travail, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs dimensions. Donner du sens au travail, c'est avoir un travail qui, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés ou que l'entreprise nous fixe, on a les moyens de réaliser ces objectifs. Avoir un travail qui a un sens, c'est aussi un travail qui a un sens au niveau social. Est-ce que je contribue à diminuer, augmenter les inégalités en travaillant? Est-ce que je pollue la nature, ou est-ce que je contribue à plutôt lutter contre le réchauffement climatique? Et puis, il y a une dernière dimension qui est aussi de savoir si j'ai les moyens d'atteindre mes objectifs et si mes objectifs personnels, est-ce que j'arrive à me réaliser dans mon travail? On sait qu'il y a toute l'ambiguïté du travail qui est à la fois aliénant, mais aussi c'est une forme d'œuvre qu'on arrive à faire, donc on cherche tout notre chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'on arrive au travail à se réaliser? Et donc, les auteurs nous disent, voilà ce que c'est que d'avoir du sens au travail. Malheureusement, les évolutions de ces dernières décennies font que dans l'organisation du travail dans l'entreprise, ça va plutôt contre ces trois dimensions. Regardez par exemple la financiarisation des économies, courir après les profits, ça veut dire réduire les effectifs par exemple. Avant vous étiez 5 pour faire le travail, maintenant vous mettez à 3. Alors s'il y a des gains de productivité à faire, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, vous vous retrouvez squeezé, courir toujours après un objectif difficile à atteindre parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous avez aussi plein d'autres façons, plein d'autres évolutions, je vais rapidement, sur qui montrent que dans l'entreprise, par exemple, si vous êtes, vous avez 10 contrats d'assurance vie à caser dans la semaine, donc vous avez sur votre ordinateur, il y a marqué 10, 8, 7, il ne me reste plus que 3 jours, il faut que j'en case 6, cette gouvernance par les nombres qui vous contraint, et de plus en plus, le fait que les gens sont sensibles à l'impact sur la nature de leur travail. Alors, les chefs d'entreprise essayent de répondre à ça. Il y a la RSE, par exemple, il y a l'investissement responsable, mais les auteurs nous disent, ça va pas très loin, c'est pas suffisant. Il y a les entreprises libérées, pas de hiérarchie, on laisse beaucoup d'autonomie, mais voilà. Les auteurs nous passent en revue toutes les solutions patronales qui font que ça va pas assez loin. Donc la fin du livre, c'est de dire quelle a été la réponse des salariés face à cette difficulté à avoir du sens au travail. On retrouve un peu Hirschman, Exit Voice et Loyalty. Alors Loyalty, c'est la loyauté, ceux qui restent, qui serrent les dents et puis qui attendent que ça passe. Et puis il y a Exit. Alors Exit, c'est soit ceux qui démissionnent, même si en France on n'a pas de grandes démissions, quand même des gens qui démissionnent, ou qui vont se mettre en auto-entrepreneur, ou qui vont fonder des scopes. Malheureusement, il y a une autre forme de sortie d'exit qui est la dépression ou le burn-out. Et puis il y a la voice, les gens qui se mettent en grève, qui manifestent, les hôpitaux, aides-soignants, etc., et qui essaient de retrouver du sens au travail par la mobilisation. À la fin, les auteurs nous disent, voilà, il y a le pouvoir d'achat, c'est important dans les revendications salariales, mais le pouvoir d'agir aussi, d'avoir l'autonomie, d'avoir un sens au travail, c'est aussi important et il faut le traiter.
Jean-Marc Daniel.
Alors, c'est la description que vient d'en faire Christian est assez exacte. Je me reconnais dans ce qu'il vient de dire, et pourtant, je pense que le livre est passé à côté de ce qu'il aurait pu être. D'abord, c'est un livre qui est tout de suite politiquement correct en termes de gauchisme mondain. C'est-à-dire, d'abord, c'est un écriture inclusive. Les salariés sont salariés et eux, tout est.
Ouais, d'accord.
Je ne sais pas si c'est très écologique, parce que ça finit par prendre du papier toutes ces mesures. Ensuite, donc, vous savez, mon obsession, le mot néolibéral.
Néolibéral, apparaît à la combienième page?
Première page. De la première page à néolibéral.
C'est vraiment une obsession.
Oui, absolument, mais c'est pas la mienne, l'obsession, c'est celle des auteurs, parce qu'ils l'emploient systématiquement. Et effectivement, ce qu'a dit Christian, le premier chapitre est sur qu'est-ce que c'est que le sens au travail, à quoi ça consiste, est effectivement assez clair, assez passionnant. Il y a d'ailleurs une petite étude pour savoir quels sont les métiers où les gens correspondent aux trois critères qu'il a définis. Et donc, l'endroit où on s'ennuie le plus, où il y a le moins de sens au travail, c'est les employés de banque. Et ceux qui ont le plus de sens au travail, c'est les médecins et les assistantes maternelles. Donc, c'est assez intéressant, ça, je trouve ça. Et puis après, effectivement, on rentre dans beaucoup de considérations, énormément de digressions. Il y a un passage par l'écologie, évidemment. Dans les années 70, on serait passé par l'autogestion. Là, on passe par l'écologie. C'est assez confus et on a du mal à se repérer avec énormément de citations de beaucoup d'auteurs. Il y a la vision patronale, mais c'est moins la vision patronale que la vision, je dirais, de mes collègues, de professeurs de management en école de commerce. Il y a beaucoup de références qui sont des références très livresques. Et de tout ça, il reste un livre que je trouve à la fois assez intéressant. Il y a des choses intéressantes, donc la définition de ce que c'est qu'au sens du travail, des exemples assez concrets, il y a des encadrés avec des témoignages qui sont assez intéressants. Et puis alors, on passe un temps incroyable dans des propos assez confus, qui se veulent académiques et qui sont beaucoup moins intéressants que ce qu'on aurait pu espérer.
Et ça concerne tous les échelons dans les entreprises.
Exactement, ah oui, ça c'est tout à fait, c'est bien montré dans le livre parce que tout ça vient de Thomas Coutreau, hein, qui est à l'origine avec Coralie Pérez. Il était jusqu'à récemment le directeur des enquêtes conditions de travail au sein du ministère du Travail. C'est pour ça qu'il a toute cette remontée.
Soupçonne d'avoir recyclé plusieurs de ses papiers et de ne pas avoir fait l'effort de les mettre en cohérence, à la fois dans le style et dans la façon de construire le raisonnement.
Bien, alors sans transition, parce qu'il n'y en a aucune entre les deux livres que vous avez choisis. Jean-Marc, vous avez choisi le livre de Jean-Paul Delahaye, Au-delà du Bitcoin chez Dunod.
Oui, absolument. Donc, c'est toujours très dangereux de parler de Bitcoin sur un média, parce qu'immédiatement, les réseaux sociaux commencent à vous incendier en vous disant que vous n'avez rien compris.
Ce qui est votre cas, Jean-Marc, puisque je vous rappelle que si vous aviez accepté, il y a une quinzaine d'années, les quelques Bitcoins qui valaient quelques centimes que des gentils étudiants vous avaient proposé pour une conférence, aujourd'hui, vous seriez millionnaire.
Oui,
et vous avez préféré une bouteille de champagne.
Absolument.
Horrible.
Et donc, depuis le temps, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai commis cette erreur.
Voilà.
Et ça a été assez laborieux. Et enfin, j'ai trouvé un livre qui me permet de comprendre.
D'accord. Okay.
Parce que Jean-Paul Delahaye, donc, c'est plutôt un spécialiste de l'informatique et des mathématiques appliquées qu'un économiste ou un financier. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le livre, même s'il y a toute une partie du livre où il parle du Bitcoin, de ce que c'est que les monnaies numériques, des NFT, de la façon dont les banques centrales vont répondre ou ne pas répondre au développement de ces monnaies. Il parle de la partie technique. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Et donc, le premier chapitre est consacré au fondateur du Bitcoin, dont on ne sait pas très bien qui c'est, ni même s'il existe. Et puis ensuite, et donc il explique comment ça marche sur le plan technique.
Ah oui, d'accord, le au-delà, ça correspond à... On soulève le capot, quoi.
On soulève le capot, et regardez, il explique, en fait, c'est un gigantesque réseau, avec deux types de gens sur le réseau, ce qu'il appelle les validateurs, qui sont les gens qui sont véritablement au cœur du système, et qui gardent en mémoire, dans des blocs, toute l'information qui a été générée par le réseau. Et puis ensuite, il y a des gens qui participent au réseau. Et ce qui est important dans le principe même, c'est que toutes les informations sont conservées, donc on a hiérarchisé dans le temps, et dans l'espace. Et donc on sait exactement ce qui s'est passé dans les échanges, qui sont des échanges monétaires et financiers, à un moment donné, et entre qui et qui ont eu lieu ces échanges. Et donc ça apporte une forme de garantie qui se veut une garantie absolue face à la garantie normale qui était apportée par les banques centrales et les institutions financières. Et ce qu'il explique assez bien, c'est qu'en outre, le Bitcoin est protégé vis-à-vis de l'angoisse autour de l'inflation et tout ça, par le fait qu'il a été annoncé au départ qu'il y en aurait une quantité limitée. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du Bitcoin, c'est au-delà du discours, mais c'est aussi peut-être le Bitcoin va disparaître. À un moment donné, il dit le Bitcoin, c'est peut-être le Minitel de l'Internet. C'est-à-dire que ça va peut-être disparaître au profit de nouvelles crypto-monnaies, nouveaux crypto-actifs qui consommeront moins d'électricité et qui se substitueront à lui après des clashs. Alors il dit, il y a d'abord des clashs techniques, il y a des moments où le système n'a pas répondu sur le plan technique, puis il y a des moments où effectivement il génère une forme de défiance qui fait que les gens se retirent, ce à quoi on assiste en ce moment. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé passionnant parce qu'il est écrit assez clairement. Bon, on a droit quand même, on a droit quand même à quelques...
Non mais Jean-Marc, attendez, Christian, Jean-Marc il n'y connaissait rien au sujet. S'il a compris, c'est que ça doit quand même être un peu lisible, non?
Il y a quelques passages sur comment on crypte, c'est-à-dire...
Ah oui, d'accord.
Comment on crypte, alors, avec la transformation de tout mot, de tout concept en 0 et 1, et puis ensuite, comment on les enchaîne. Bon, il faut quelquefois s'accrocher, mais... Au moins, normalement, un Béotien comprend.
Je suis pas du tout d'accord. Un Béotien, comme moi, comprend rien du tout. ceux qui voudraient lire ce livre, ne commencez pas le livre tard le soir. Hein, parce que là, il faut être le matin, après trois cafés.
Sauf si vous avez des insomnies. Mais...
Avec les neurones bien astiqués pour poursuivre. Alors, paradoxalement, il y a un vrai effort de pédagogie de la part de l'auteur, mais un effort de pédagogie pour initier, pas pour grand public. Si vous êtes déjà bien dedans et que vous voulez aller un peu plus loin sur la technique, là, vous pouvez aller sur la technique. Je ne sais pas combien de lecteurs normaux, entre guillemets, arrivent à passer à travers le chapitre 6.
Moi, j'y suis arrivé.
Le chapitre 6
Jean-Marc.
Le chapitre 6. Jean-Marc, il faut peut-être sortir de Polytechnique. Voilà.
Non. Le chapitre 6. Mais c'est loin, Polytechnique, pour Jean-Marc.
Le livre est encore plus loin que moi. Polytechnique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à suivre. Ouais. D'autant plus que le livre reste uniquement sur la partie technique. Moi, j'aurais visiblement l'auteur, un excellent spécialiste de comment ça marche, vraiment, non seulement de Bitcoin et les autres crypto-actifs. À un moment donné, il essaie de nous dire crypto-actif, crypto-monnaie, on ne sait pas trop. Alors, il a juste un paragraphe pour nous dire oui, peut-être que là, dans ce cas-là, une fois pendant 10 minutes, ça a servi d'unité de compte. Mais franchement, non, ce ne sont pas du tout des crypto-monnaies. Ce sont des crypto-actifs qui sont très spéculatifs. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est utile? Moi, j'aurais bien voulu que ce spécialiste nous dise oui, non, voilà pourquoi. Derrière ça, la blockchain, qui ne sert pas seulement à faire des crypto-actifs ou des crypto-monnaies, sert aussi à autre chose. Est-ce qu'on peut l'utiliser à quoi d'autre? Est-ce que c'est utile socialement? Est-ce que c'est utile économiquement? Moi, c'est ça que j'aurais attendu du livre, qui reste un livre extrêmement et ultra technique. Alors, de temps en temps, on prend des petites choses. Nakamoto, qui est le fondateur du Bitcoin, il a visiblement en poche 47 milliards de dollars.
Oh là là.
Et le gars nous dit, il n'y a pas touché. Pourquoi? Alors, est-ce que Monsieur Nakamoto, qui est une personne ou plein de personnes, on n'en sait rien, est-ce que Monsieur Nakamoto est simplement un grand sage qui veut pas gagner d'argent? Est-ce qu'il a perdu la clé pour pouvoir acheter? Est-ce qu'ils sont plusieurs et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour répartir le magot? Est-ce qu'ils sont plusieurs qu'il y en a un qui a perdu la clé? On sait pas trop. Voilà. On prend des petites choses à droite à gauche. Je te dis sur la guerre Ukraine-Russie. Les crypto-actifs ont servi à rien du tout. Parce que des fois, on a entendu dire, oui, peut-être que les Russes arrivent à contourner, parce que les Ukrainiens... Il dit non, a priori, il a regardé, ça n'a pas grand-chose. On a donc ces monnaies privées numériques. Les banques centrales sont en train de faire des monnaies numériques de banques centrales. Et là, il nous dit, de manière étonnante, elles ne vont pas y arriver. Elles vont peut-être y arriver, mais c'est franchement pas pour aujourd'hui. En Chine, c'est nettement pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Et la BCE pousse beaucoup. Donc on a le discours des banques centrales qui dit on est quasiment prêt, c'est pour demain matin, en tout cas en Europe et en Chine, et lui qui nous dit non, c'est pas pour demain. Donc, moi, il y a plein de petites choses quand on est un béotien comme moi. On pique des petites choses, mais le bouquin est ultra technique. Il faut vraiment être un passionné de technique pour se plonger dedans.
Je donne le titre quand même du chapitre 6. empreinte, hachage et concours de calcul.
Mais oui, c'est ce que je dis.
C'est fini, Jean-Marc. Stop.
Le hachage, il explique comment on fait. Il y a F2X à un moment donné. Mais F2X, quand même.
Bien sûr, 2+2.
Voilà.
Allez, merci à tous les deux. C'est le moment de retrouver Eva Ducrot qui va nous parler d'un vieux livre des années 80, un livre assez culte, hein, Le Bûcher des Vanités.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Eva.
Bonjour Emmanuel.
Eva Ducrot, journaliste à BFM Business. Vous avez choisi de nous replonger dans la folie financière des années 80, Eva.
Exactement, on va parler de Tom Wolfe. Tom Wolfe, avant d'être écrivain, il était journaliste. Il a d'ailleurs fondé le Nouveau Journalisme en 1970. Alors, il publie son premier roman après 3 ans d'enquête dans New York. Alors, le bûcher des vanités dont on parle...
Bien du bûcher des vanités qu'il s'agit, effectivement.
J'ai teasé. Le bûcher des vanités, eh bien, c'est l'histoire de Sherman McCoy. C'est un jeune et riche trader de Wall Street qui renverse un jour un jeune homme dans le Bronx et s'ensuit un grand procès et son univers s'effondre. Alors à l'époque, quand ce roman sort, il fascine, c'est un succès mondial et qui est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.
Alors c'est un roman, mais c'est quasiment écrit comme une enquête. Hein. Tom Wolfe, on ne se refait pas, il est journaliste.
Oui, exactement. En fait, Tom Wolfe écrit vraiment ce qu'il voit. Il livre une analyse visionnaire et quasi chirurgicale de la société new-yorkaise. Alors, il utilise ses méthodes de journalisme, de journaliste, et il s'inspire de Zola et de Balzac pour décrire et étudier Wall Street de l'intérieur. Alors, dans ce roman, on trouve plusieurs thèmes, la démesure et les excès de Wall Street, la lutte des classes, les conflits raciaux, et surtout Tom Wolfe y dénonce les inégalités entre les classes sociales.
La parution du livre, c'est l'automne 87. Et comme par hasard, c'est exactement le moment du krach boursier.
Ouais, exactement, le 19 octobre 1987, jour surnommé le Black Monday. Alors Wall Street s'effondre, l'indice du Dow Jones chute de 23% en une journée. C'est la baisse la plus importante jamais enregistrée en un jour sur un marché d'actions. Alors c'est un événement qui survient alors que l'Amérique est en pleine euphorie, où les traders sont quasiment des héros. On se les représente avec les cheveux gominés, leurs attachés case, et où la consommation s'emballe. Alors c'est dans ce contexte que l'on va suivre, nous, lecteurs, notre héros, Sherman McCoy, qui est décrit comme un vrai maître de l'univers, qui, finalement, n'a aucune limite.
C'est l'époque où Ronald Reagan termine également son deuxième mandat, et c'est le moment où, quasiment, ça y est, l'Amérique va l'emporter sur l'Union soviétique.
Exactement, et Reagan encourage la financiarisation de l'économie américaine et l'innovation. À cette époque, le trading automatique, les obligations à haut risque ou encore les acquisitions par emprunt font leur apparition. Alors les entreprises de trading, justement, elles brassent des milliards de dollars et elles offrent des salaires indécents à la jeunesse dorée new-yorkaine qui est à peine diplômée. Je cite ces quelques lignes. « Incroyable comment les fils de ces grandes universités se regroupaient comme un troupeau dans Wall Street. Et la salle des obligations de Pierce & Pierce, ces garçons ont encore capable de rougir, acheter des appartements à 3 millions de dollars sur Park et la 5e avenue.
Ouais, c'est alors, ce grand Big Bang financier, cette déréglementation, ce décloisonnement que raconte aussi ce bûcher des vanités. Merci Eva.
De rien, avec plaisir.
Eh ben, on reste non pas aux États-Unis, mais on continue notre voyage dans le monde avec Benaouda Abdelhaim, qu'on retrouve tout de suite, notre Globetrotter.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Alors, Benaouda, on s'intéresse d'abord à la situation de l'emploi de la jeune génération en Chine continentale.
La jeunesse de Chine populaire qui se détourne massivement des métiers de col bleu. C'est ce qui ressort d'un travail de recherche que nous a transmis une sociologue taïwanaise, Chang Yilin, de l'Université nationale de Chengxi. Elle l'a effectué pour le Conseil des affaires continentales, un organe officiel de Taipei. Cette désaffection concerne y compris les postes techniques hautement rémunérés. Le travail manuel a du mal à convaincre les candidats. Une époque où il n'y a jamais eu autant de diplômés du supérieur en Chine, pratiquement 10,8 millions cette année. L'auteur écrit que certaines personnes n'ont pas d'emploi et d'autres emplois n'ont pas de personne. Elle expose toute une stratégie d'évitement du travail en usine, y compris en tant que technicien supérieur, y compris en tant qu'ingénieur. La professeure Chang Yilin établit à quel point la préférence va à présent à un poste administratif. Le col blanc symbolise, dit-elle, l'appartenance à une classe sociale supérieure. Mais pas seulement. Il représente aussi, ce métier de col blanc, un meilleur potentiel d'avancement dans une entreprise pour une implication moins exigeante exigeante somme toute physiquement et en termes d'horaire aussi. Le ministère chinois de l'éducation entend y remédier en améliorant l'attractivité de l'enseignement professionnel notamment, mais des doutes s'expriment ici quant au succès de ce projet, tant une partie substantielle de la jeunesse urbaine chinoise a intégré un nouveau contre-courant que nous avons déjà abordé ici, celui dit de l'allongement à plat, le tangping, un détachement de la culture du labeur dans une forme de résistance passive. Et ce rapport considère que, quand cela, les jeunesses chinoises et taïwanaises, au fond, se rejoignent face à une société qu'ils perçoivent, qu'ils estiment inégalitaires dans l'emploi, dans le logement, et puis ils refusent les heures supplémentaires abondantes sans que la rémunération aille avec.
Oui. La main invisible qui, à défaut d'être visible, est-ce qu'elle existe ou pas ? Ben Aouda, réponse à partir de l'expérience d'un marché de légumes en Inde.
Oui, c'est une étude menée par le lauréat 2019 du Nobel d'économie, Abhijit Banerjee, et une équipe de chercheurs d'établissements américains, canadiens et britanniques. Elle a été publiée le mois dernier. Ils ont travaillé sur les résultats bénéficiaires de quelques milliers de vendeurs de rue de produits frais à Delhi et à Calcutta, ce qui, au passage, a beaucoup intéressé les gens économique indien. Ouais. Ces chercheurs établissent des profits nets en moyenne de 29%. Et même après remise, ils atteignent encore 21%. Et pourtant, malgré ces marges très confortables, les vendeurs de rue en question ne veulent pas, ne tentent pas de développer leur activité. Alors pourquoi ? Les économistes réunis sur leur sort constatent plutôt un comportement réticent au risque lorsqu'il s'agit d'expansion et de concurrence vis-à-vis du reste du marché qui les entoure. Ils ne jouent pas sur les stocks, ils ne jouent pas sur leur variété, ils n'essaient pas non plus d'agir sur le prix pour attirer le chaland. Les économistes de cette équipe attribuent ce défaut structurel de concurrence à un certain nombre de facteurs comportementaux. C'est le conservatisme qui prévaut le plus souvent. Les auteurs parlent ici de pratiques commerciales inertielles. Et il est décortiqué dans une expérience de terrain en grandeur nature, même fascinante. Les enquêteurs ont proposé des subventions à la vente sur certains légumes, notamment les carottes et les pois. Et fondamentalement, ce n'a pas modifié leur approche commerciale. On veille à ne pas irriter les concurrents, on ne veille pas à irriter l'entourage, et on redoute de sortir de la connaissance commerciale que l'on a, celle de ses grossistes, celle de ses clients, et de son produit historique. Et il y a aussi une aversion au risque, aux pertes. C'est-à-dire que la crainte de voir sa marge se tasser éventuellement l'emporte sur la probabilité supérieure de prendre de l'essor économique et de l'essor commercial, ce qui forcément réduit l'appétit de concurrence dans son milieu. Et les auteurs pensent que les pouvoirs publics peuvent ainsi mieux comprendre pourquoi leurs interventions en faveur d'une meilleure compétitivité sur le marché de détail en Inde n'ont eu dans ce domaine que des succès restreints.
Ouais, au détriment du consommateur, quand même.
Exactement.
Finalement, allez, on termine avec un détour par l'Espagne. Ben Aouda, est-ce qu'il y a un lien entre la taille des adultes et leur statut socio-économique ?
Oui. Un diplômé du supérieur en Espagne mesure 3 cm de plus que celui qui a arrêté ses études très tôt. Alors, ce n'est bien entendu pas...
Mais il continue pas de grandir parce qu'il fait des études.
Non, mais on va voir, auparavant, quelle est l'explication. Ah, c'est ça, le sens de cette étude particulièrement instructive et qui donne beaucoup d'indications pour le reste de l'Europe. Alors... première explication, bien entendu, c'est pas parce que l'un est resté plus longtemps assis que l'autre, déjà. Alors, il y a un pédiatre britannique cité ici qui a eu cette formule en 1986. Ouais. L'évolution de la taille moyenne constitue le miroir de la condition d'une société. Et les économistes espagnols ici tentent de le prouver. Begoña Candela Martinez, la faculté d'économie de Murcie, et ses collègues de différents établissements espagnols et allemands en font la preuve, en tout cas, d'une corrélation entre la catégorie sociale d'un jeune espagnol et sa croissance physique au cours de plusieurs décennies. Alors, avoir fait des études à cet égard s'avère encore plus déterminant que d'exercer ensuite une profession bien rémunérée.
Ah ouais.
3 cm, on peut dire que c'est beaucoup, c'est peu, mais en fait c'est beaucoup. Cela correspond à des décennies de développement socio-économique de la nation espagnole. Autrement dit, un enfant de famille pauvre d'aujourd'hui n'aura adulte que la taille moyenne de la population masculine de l'Espagne des années 1960. C'est dire l'importance de cette évolution. Alors les auteurs ont aggloméré, croisé beaucoup de données, vous en doutez, sur des décennies. Alors niveau d'éducation, donc statistiquement, l'appartenance à un foyer fiscal de telle ou telle tranche paraît de plus en plus liée au fait de mesurer 1m75 parmi les hommes nés à partir des années 1960. Par rapport à ceux qui font 1m60 ou 1m65.
D'accord.
Alors, chez les femmes, il est plus difficile, nous dit-on ici, de démontrer un lien, notamment parce que l'accès à l'université, pour elle, a été historiquement bien plus tardif. Il y a toutefois, globalement, moins d'inégalités sous la toise en Espagne que pour les générations nées dans les années de guerre civile, puis de la Deuxième Guerre mondiale, 30 et 40. La démocratisation, ou bien la massification de l'enseignement supérieur, plus encore que le niveau de revenu, encore une fois, devient un paramètre d'analyse aussi significatif que l'évolution biologique, l'accès à la santé, ou bien le régime alimentaire.
Passionnant. Merci beaucoup, Belaouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi un livre qui n'a rien à voir avec l'économie et qui est déjà...
Ça y est, ça commence. Hein, première déjà... émission de la saison. Ça y est, on part, on fait autre chose.
Alors, c'est déjà
de quoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi un livre sur les mathématiciens, puisque je rappelle que cette année, la médaille Field a été attribuée à un Français. Et donc, les éditions Ellipse ont ressorti à cette occasion, c'est la troisième édition, un livre qui s'appelle « Des mathématiciens de A à Z », qui est une sorte de dictionnaire des principaux mathématiciens de l'histoire. Donc on commence dans la plus haute antiquité et on va jusqu'aux mathématiciens encore vivants. Certaines entrées portent sur des mathématiciens encore vivants. Le principe est simple, chaque article, il y a une petite biographie du mathématicien, une vulgarisation de ses travaux et puis ensuite on encadre des choses dont je ne sais pas si ça s'adresse à des béotiens ou à des anciens élèves de l'école polytechnique, mais qui est un peu plus profond, sur ce qu'ils ont apporté.
Si ça va un peu plus loin que F de X...
ça va un peu plus loin, mais ça mobilise F de X.
Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Un livre de patron, bien évidemment. Le livre d'Adrien Couret, qui est le patron d'AMA Group, qui recoupe la Massif et d'autres mutuelles. On avait déjà eu, il y a quelques mois, le livre de Jérôme Sadier, le patron du Crédit Coop.
Exact.
Ces gens qui travaillent dans le milieu mutualiste et dans l'économie sociale et solidaire, qui étaient juste un petit peu à côté, qui se disaient, c'est pas grave, nous, on a notre façon de faire, et puis on est à côté du capitalisme traditionnel. Ces deux livres, maintenant, disent, on revendique notre modèle. Les gens veulent du sens au travail, ils veulent de l'environnement, veulent participer à la décision, mais nous, ça fait des décennies qu'on fonctionne comme ça. Donc, il y en a marre de se dire on est le petit modèle qui est à côté, il faut qu'on revendique le fait que le capitalisme doit fonctionner comme nous, on fonctionne. Et voilà, avec beaucoup d'exemples, comment notre société mutualiste, pour ce qui est d'Adrien Couret, notre banque, Jérôme Sadier, travaille en accord avec les valeurs des gens et de la société en général. C'est motivant et c'est passionnant.
Formidable. Moi, je vous avais déjà parlé ici de la revue, vous savez, la revue des anciens élèves de l'ENA, ça s'appelait l'ENA hors les murs, revue d'une extrême qualité. Eh bien, l'ENA n'existe plus, ça s'appelle maintenant l'INSP, l'Institut National du Service Public, et donc l'ENA hors les murs, revue n'existe plus non plus. L'occasion donc de refonder la formule, nouvelle maquette, format nouveau, plus petit, ça s'appelle Servir, mais c'est toujours d'excellente qualité. Le numéro qui vient de sortir est consacré à la sécurité intérieure et vous y retrouvez vraiment les meilleurs experts du sujet. Donc, longue vie à Servir. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.